Chapitre 9. Invisible, sous l'aile ouest, à l'opposé des urgences, l'Institut médico-légal occupait les locaux de l'ancienne morgue, celle créée en 1929 avec les fondations de l'hôpital. L'unité thanatologique pratiquait des autopsies, des examens sur des vivants, notamment sur les victimes de violences physiques ou d'accidents, et des levées de corps à tout endroit, sous la juridiction de la brigade de la gendarmerie. Ces deux médecins dressaient également des obstacles médico-légaux sur les certificats de décès en cas de mort criminelle ou suspecte, nécessitant l'ouverture d'une procédure judiciaire. Paul était accompagné de David Esquimet, le petit ami de Louise. Le garçon de morgue de 35 ans avait levé le corps de la berge avec l'un de ses employés. Esquimet dirigeait l'une des deux entreprises de pompes funèbres de Saga et travaillait régulièrement avec la gendarmerie. Son père s'était occupé de la femme de Paul lorsqu'une sclérose en plaques l'avait emporté 18 ans plus tôt. Il poussa une lourde porte métallique.
« C'est moche ce qui est arrivé à cette femme. On croit toujours que ça se passe ailleurs, ce genre de truc. Il y a des malades partout. »
Paul avançait en silence. Il n'avait pas décroché un mot de l'après-midi, se contentant de lancer des procédures. La présence de Gabriel Moscato sur la scène de crime et son étrange comportement occupaient ses pensées. Le revoir, chauve, les traits marqués, dans un tel état de détresse, au moment où il grêlait des oiseaux morts et où un crime odieux frappait Saga en plein cœur, le laissait perplexe. Des tuyaux, des câbles, des gaines techniques rampaient le long du couloir bétonné. Des ampoules grillagées creusaient les ténèbres, des voilets d'anciens chariots ou des fauteuils roulants jamais mis au rebut. Manque de personnel, de budget. On soignait déjà difficilement les vivants, autant dire qu'on se fichait des morts. Ils s'engagèrent dans la salle d'autopsie. Un vrai frigo. Paul remonta la fermeture de sa parka. Seul le sol avait été refait en dalles synthétiques. La lampe cyalitique datait des années 1980. Le reste baignait encore plus dans son jus, avec ses cattels murales jaunâtres. L'un de ses deux lavabos fissurés, ses épais organes à aiguilles d'époque. Une bouche sombre au plafond faisait office d'aération. Pourtant, les effluves des cadavres pesaient comme des enclumes. Louise était déjà sur place pour prendre les photos du corps et s'assurer du bon prélèvement des échantillons. Elle adressa un bref regard à son père, puis à l'homme qu'elle fréquentait depuis 3 mois. Alfred Andrieux, le médecin légiste, consultait des radiographies à la lumière du cyalitique. À 70 ans, ce vieil homme semblait marié à l'hôpital et avait toujours refusé de prendre sa retraite. Personne ne lui demandait de partir, d'ailleurs. Qui accepterait sa place dans ce trou? Comme il disait souvent, « Un jour, je m'autopsierai moi-même ». David Esquimet alla préparer le matériel sur la paillasse. Faute de personnel, il assistait régulièrement le médecin et, à vrai dire, Andrieux prêtait de moins en moins d'attention aux règles. Dans les petites villes, on faisait avec les moyens du bord et on se passait la plupart du temps de certains protocoles trop contraignants. Paul tenta de capter l'attention de sa fille. Il voulait savoir si elle avait pu identifier Julie Moscato. Elle haussa les épaules. Il s'approcha du cadavre nu, posé à plat sur la table en acier, bras le long du corps, jambes écartées. Andrieux lui avait rasé le crâne, la rendant plus anonyme encore. Il avait essayé de nettoyer le sang sur le visage démoli. Le gendarme observa les oreilles dépourvues de bijoux, fixa l'un des yeux grand ouvert, voilé et excavé, d'un bleu devenu terne, puis son regard descendit vers l'abdomen, perforé de 2 trous pas plus larges que des pièces d'un centime.
« À quand remonte le dernier vrai crime de sang dans la circonscription ?» demanda Andrieux. « Tu sais, cette histoire du type tombé sur sa femme au pieu avec son beau-frère et qui les a massacrés à coups de tessons de bouteilles de pastis, c'était quand ?»«
Ça doit faire 2 ans, » répliqua Paul. « Peut-être 3. »
Andrieux hocha la tête.
« C'est ça, oui. Le temps passe tellement vite. » « Bon, en ce qui concerne notre affaire, avec ta fille, nous avons réalisé 24 écouvillonnages sur des zones de contact possibles avec l'auteur du crime, à savoir les faces internes et externes des 2 mains, sous les ongles de la main gauche, elle a vraisemblablement griffé son agresseur, la gorge, qui présente des marques de strangulation, les régions buccales, anales et vaginales. Prélèvement d'humeur vitrée des ongles, d'une mèche de cheveux pour la toxico, tamponnage autour des zones d'impact des projectiles.
La culotte et la paire de chaussettes présentes dans la bouche sont également sous-scellées,
précisa Louise.
Et il n'y avait quasiment pas de salive sur ces dernières,
ajouta le légiste.
Or, elle aurait dû beaucoup saliver avec du tissu dans la bouche.
Paul observa de nouveau la victime, remarqua un grain de beauté sur le sein gauche et un autre proche du nombril. Trop petit pour être signifié. Il se souvenait que dans le dossier Moscato, les parents n'avaient rapporté aucun signe distinctif sur le corps de leur fille. Pas de tache de naissance, pas de cicatrice ni de tatouage. Julie n'avait pas subi d'opération chirurgicale, n'était allée qu'une fois ou deux à l'hôpital suite à des chutes de vélo. Il fixa Louise.
Les grains de beauté, tu as pris des photos ?
Elle acquiesça. Le légiste indiqua les deux tatouages présents sur le bras gauche du cadavre. Il s'agissait d'une poupée matrioshka bariolée, ainsi que d'une représentation en rouge et noir du diable, avec ses cornes de bouc, ses crocs, sa langue fourchue. Le vieil homme appela Esquimet, et à deux, ils retournèrent le corps. Un cow-boy aux traits acérés, longue chevelure ondulée, Stetson sur la tête, occupait le milieu du dos. Il serrait une arme dans chaque main et pointait l'une d'elles vers l'observateur. Louise en prit des photos. Après avoir replacé le corps sur le dos, Andrieux lui écarta les mâchoires et baissa la lèvre inférieure tuméfiée.
Certaines dents épargnées par l'écrasement sont déchaussées, et j'ai noté la présence de ce qu'on appelle des caries de Loventhal. J'ai déjà vu ça chez les héroïnomanes. Cette femme se droguait, mais à mon avis, elle avait arrêté depuis un bout de temps, peut-être des années.
Pourquoi ?
L'examen n'a révélé aucune trace d'injection. Les veines des héroïnomanes sont brûlées, proéminentes. J'ai noté des veines cyanosées, mais rien de récent. La toxico pourra dater avec l'analyse des cheveux, si ça ne remonte pas trop loin.
Il se décala légèrement, tout voûté sous sa blouse. L'une de ses mains tremblotait.
Heureusement que ses patients sont morts,
songea Paul.
Nous avons analysé et photographié les impacts, deux au total. Plaies pénétrantes non perforantes, tirs d'armes à feu à bout touchant. Ce sont les vêtements qui ont absorbé le gros de la poudre et des gaz de combustion. Marques de strangulation, plaies de défense sur les paumes des mains, lésions apparentes au niveau de l'appareil génital, antérieures à la mort vu les saignements importants. Fractures nombreuses au visage révélées par les radiographies qui sont post-mortem.
Il la viole, la tue, la rend méconnaissable. Il ne veut pas qu'on puisse l'identifier.
Ou il était très en colère. Suite à nos différentes mesures, à l'absence de rigidité cadavérique, j'estime l'heure de la mort à la nuit dernière, entre minuit et 4 heures.
On pense qu'elle a été tuée pile au milieu, à 2 heures, précisa Paul. D'après nous, les coups de feu ont fait décoller les étourneaux qui se sont ensuite percutés. L'un d'entre eux a d'ailleurs frappé notre victime à la cuisse en tombant.
Le légiste approuva.
C'est cohérent. De surcroît, le corps n'a pas été déplacé. Les lividités au niveau de la nuque, des flancs et de la face postérieure des cuisses correspondent à la position dans laquelle on l'a découverte. Enfin bref, je noterai tout ça dans le rapport. On va passer aux choses sérieuses.
Il ne portait pas de masque en papier, mais fit signe à Louise de remonter le sien.
Ça va puer comme dans un frigo plein que t'aurais laissé débrancher depuis des mois. Respire par la bouche, ça t'aidera à tenir le coup.
Secondé par David Esquimet, il attaqua l'examen interne. Paul positionna son masque jusque sous ses yeux noirs et observa sa fille avec un certain malaise. Il la vit résister, affronter l'indescriptible. Elle avait voulu assister à l'examen alors que Martini ou Brunet auraient pu s'y coller. Pourquoi s'infliger un tel spectacle ? Le gendarme trouvait la situation tellement incongrue. Un père, sa fille et son petit ami réunis face à ce que la mort avait de plus abject. Quand d'autres allaient au restaurant ou faire une partie de bowling. Quelle belle réunion familiale. Le légiste incisa, découpa, pesa. Il récupéra les 2 balles et les déposa dans des sacs à sceller. Puis il préleva des échantillons de sperme dans le vagin, indiqua d'une voix neutre que le rapport sexuel avait eu lieu du vivant de la victime et que, au regard de certaines blessures internes, il y avait sans doute eu introduction d'un ou de plusieurs objets, très certainement une branche vu la présence d'infimes morceaux d'écorce. L'agresseur ne s'était pas soucié de ses traces biologiques. Par manque de bon sens ou simplement parce qu'il n'avait jamais eu affaire à la justice? Savait-il que les futures analyses mèneraient à une impasse? Le médecin décrivit des trajets lésionnels causés par les projectiles, avec plaies à la rate, au foie et au niveau de multiples vaisseaux du bassin à l'étage abdominal. Tout en ouvrant l'estomac pour en analyser le bol alimentaire, il déclara explicitement une mort par hémorragie dans un contexte de plaies multiples par arme à feu. À ce moment, l'odeur devint si insupportable qu'elle provoqua un haut-le-cœur chez Louise.
« On s'y habitue, à la longue »,
clama Andrieux.
T'as déjà dû remarquer que David faisait même plus la différence entre le doux fumet d'un plat de rognon et le parfum d'un chrysanthème.
Louise se contenta de hausser les épaules. Elle s'expliquerait plus tard avec David qui avait parlé de leur relation au légiste. Il faut dire que ces deux-là étaient toujours fourrés ensemble. Les sourcils d'Andrieux se froncèrent lorsqu'il remarqua au fond de l'estomac un objet. Il le récupéra à l'aide d'une pince et l'essuya dans une serviette. Il s'agissait d'une pièce d'échec de 5 cm de haut. Une tour en bois blanc, plus précisément. Louise murmura un « Excusez-moi » à peine audible et quitta la salle en arrachant son masque. David la suivit. Le capitaine de gendarmerie les regarda partir, puis invita le légiste à glisser la pièce dans un sac à sceller. Ce dernier déposa ensuite l'estomac dans le seau, déjà à demi rempli de prélèvements destinés à l'anatomopathologiste.
Une pièce d'échec, ce n'est pas le genre de truc qu'on ingurgite par erreur.
Paul rangea le sac à côté des autres, le numérota, le data, sans prononcer un mot. Une dizaine de minutes plus tard, il ôta ses gants en latex, les jeta à la poubelle et récupéra l'ensemble des scellés.
Je te laisse finir seul. Tu t'occupes du seau pour la napate.
Compte sur moi. Tu sais, j'ai deux petites filles belles comme des anges, Mélissa et Ambre. Je pense sérieusement à prendre ma retraite l'année prochaine pour passer plus de temps avec elle.
Il pointa Paul du bout de son scalpel avant de poursuivre.
Savoir qu'un type capable de faire une chose pareille habite peut-être dans le coin et se balade dans les mêmes parcs qu'elle me fout les jetons. Alors fais-moi plaisir. Coffre-moi ce fils de pute.